Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
Avant, mon père me payait pour arrêter de parler. Maintenant, je suis payé pour parler. Le chemin est fait, quand même.
Les indépendants se soucient de plus en plus de la parole parce que face à l'IA, qu'est-ce qui va faire la différence? Tout le monde demain va savoir prompter. Qui saura parler?
J'étais moins stressé lorsque j'ai fait l'Olympia que lorsque j'ai fait mon premier TEDx, alors qu'il y avait beaucoup plus d'enjeux. Et la seule différence entre les deux, c'est uniquement l'entraînement et le fait que le cerveau a compris que c'était accessible.
Quelle que soit la personne qui parle, l'objectif n'est pas d'être bien vu. Qu'on se dise, oh, mais quelle belle parole! Qu'est-ce que cette personne parle bien? L'objectif est que la personne en face soit transformée.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Sur ce plateau, les caméras, les projecteurs, les micros sont allumés, mais ça ne suffit pas. Si je ne réussis pas à capter votre attention avec mes mots, mon ton, ma posture, c'est comme si cette scène n'existait pas. Dans la vie, c'est pareil. Même si j'ai tout pour moi, si quand j'ouvre la bouche, il ne se passe rien, je disparais. Celui qui sait parler et se taire quand il faut a déjà gagné. Et c'est encore plus vrai dans le business. Et non, ce n'est pas un don, c'est une décision. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des indépendants, le pouvoir de l'éloquence, avec quatre invités de grande qualité que je laisse Ombline vous présenter.
Première invitée, Laetitia Mampaka, surnommée la reine de l'éloquence par la presse. Laetitia est une voix multiprimée avec 13 titres internationaux dont championne d'Europe et des prises de parole qui cumulent plusieurs dizaines de millions de vues. Classée dans plusieurs palmarès internationaux dont Forbes 30, Under 30 et parmi les femmes inspirantes du 21e siècle, elle accompagne aujourd'hui les femmes leaders et entrepreneurs à transformer leurs paroles en levier de pouvoir. Deuxième invité, Mohamed Boclé. Auteur, conférencier et spécialiste de l'apprentissage, Mohamed s'est donné une mission claire, révéler le potentiel du cerveau humain. À travers ses livres, vendus à plus de 100 000 exemplaires, ses formations et ses conférences, il démontre une chose simple, nous sommes loin d'exploiter nos capacités réelles. Il a déjà accompagné plus de 20 000 personnes pour améliorer leur mémoire, leur apprentissage et leur confiance en eux. En 2024, Mohamed a marqué un cap en montant sur la scène de l'Olympia, malgré sa dyslexie. Troisième invité, Elliot Nouaille. Après avoir remporté plusieurs titres d'éloquence majeure en France et en Europe, Elliot accompagne aujourd'hui des profils à très fort enjeu. Dirigeant de l'audiovisuel, patron du CAC 40, conférencier internationaux. À la tête de la fabrique des orateurs, il intervient auprès de codir, d'équipes managériales et commerciales de grands groupes comme L'Oréal, Dior, TF1. En parallèle, il conçoit des programmes pour solopreneurs et experts qui veulent structurer une prise de parole claire, impactante et maîtrisée. Elliot est aussi l'auteur d'Exceller à l'oral, son positionnement, transformer la parole en levier de pouvoir. Quatrième et dernière invitée, Dimitri Repérant. Dimitri se destinait à une carrière de chanteur d'opéra. Plus de 500 concerts, une vie entière sur scène, jusqu'au moment où tout bascule quand il comprend une chose. La voix n'est pas qu'un instrument, c'est un levier de pouvoir. Aujourd'hui conférencier et coach d'orateur, il est classé Voice Coach numéro 1 mondial sur LinkedIn en 2024 selon Favicon, cumule plus de 30 millions de vues et accompagne depuis plus de 15 ans des dirigeants, politiques et entrepreneurs. Avec son cabinet La Voix par la Voix, il intervient auprès de groupes comme LVMH, Hermès, Airbus ou Société Générale et a déjà formé plus de 7000 personnes sur des enjeux décisifs.
Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast des indépendants. Et si je voulais vraiment faire cette émission sur l'éloquence, c'est parce que les mots ont un vrai pouvoir, surtout dans le business. Mohamed.
Je suis entièrement d'accord parce que moi, je suis pas un orateur à la base. J'ai dû apprendre à prendre la parole pour partager ma mission de vie, ce que j'ai envie de faire au quotidien. Moi, quand j'étais jeune, moi, je suis dyslexique, on en parlera après, mais j'ai une anecdote que je raconte souvent. Le jour de ma soutenance de fin d'études, je suis parti vomir juste avant de prendre la parole. J'étais incapable de prendre la parole devant deux personnes. Pour moi, c'était vraiment un calvaire. Et quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai dû apprendre à prendre la parole. J'ai dû apprendre à mettre des mots sur mes idées, à partager ma passion. Et ça s'apprend.
Ce que tu dis est vraiment important parce que ça donne aussi de l'espoir à ceux qui ne sont pas du tout à l'aise en matière d'éloquence. Tu dis, je vomissais et tu étais même dyslexique.
Alors oui, je suis toujours dyslexique et j'ai toujours cette dyslexie qui m'accompagne au quotidien. Aujourd'hui, je suis auteur, conférencier, mais je pars de vraiment très très loin. Et j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui viennent me voir et qui me disent, Mohamed, je vais pas y arriver. Je suis entrepreneur, j'ai un super produit, j'appelle un peu ça le syndrome de l'expert. Il y a énormément d'experts qui sont là, qui sont très bons, mais comme ils savent pas prendre la parole, ils savent pas se vendre, ils savent pas partager leur passion et ce qu'ils ont, ben ils sont dans leur coin. Et il y a d'autres personnes qui sont beaucoup moins compétents, mais qui s'expriment bien, qui sont capables de vendre mieux.
Et c'est là qu'on voit que la parole, c'est pas que esthétique, en fait. C'est vraiment stratégique. C'est même un outil de conviction, Elliot.
Ouais, c'est pas qu'esthétique. La parole, c'est pas qu'un vernis, c'est pas qu'un habit. La parole, c'est ce qui permet de capter l'attention, de réussir à mettre des mots sur ses émotions, d'aller chercher l'approbation, d'entrer en relation. Et c'est le plus grand pouvoir, je crois, au XXIe siècle. Parce que on est dans une économie de l'attention, il faut réussir par sa parole à aller chercher les autres. On pourrait d'ailleurs se demander quel est le meilleur investissement. Moi, je suis convaincu que c'est pas le Bitcoin, que c'est pas un appartement sur les Champs-Élysées, non. Le seul actif qui n'a jamais perdu de valeur en plus de 3000 ans, qui est plus stable que n'importe quel marché financier, c'est la parole. La parole, elle vaut de l'or. Et on le voit, un indépendant qui arrive à bien prendre la parole, il cherche plus ses clients, il les attire. On le voit, un patron, quand il rentre sur scène, s'il fait une bonne prise de parole, à la fin, il signe 5 devis. Et on le voit, ne serait-ce que chez les managers, les employeurs nous disent qu'ils ont confiance en leurs managers s'ils sont éloquents pour un employé sur deux. Donc là, parole, c'est la meilleure carte de visite.
Et est-ce que la parole, c'est être cash, Laetitia ?
Non. Souvent, on se cache, les personnes cachent, se félicitent d'être sans fil, d'être brut de décoffrage. C'est pas parce que l'on dit quelque chose avec sincérité que l'on peut se permettre de le dire n'importe comment. C'est par respect pour soi et par respect de l'autre également. Être authentique, être sincère n'empêche pas de savoir mettre les formes. Parce que le but de l'éloquence, c'est d'être compris, c'est de faire passer un message, d'être convaincant. Et donc, on peut très bien être sincère, être vrai et être aussi éloquent. C'est un peu aussi de l'élégance.
Et l'éloquence, c'est aussi cette presque intelligence, on verra si ça s'apprend après, de choisir les bons mots au bon moment pour créer ces émotions, parce que les mots résonnent entre eux, parce que on arrive à donner le sens subtil que l'on veut donner à ce que l'on dit en choisissant les bons mots.
Oui, c'est une question de sensibilité. Mais pour ça, je dis souvent, la plupart de mes clientes viennent vers moi pour essayer d'amplifier une voix qu'elles n'ont pas encore trouvée. Il faut pas faire le chemin à l'envers. Trouver déjà son identité oratoire, parce qu'elle existe, c'est ensuite pouvoir l'amplifier, savoir quel mot correspond le plus à ce que l'on veut dire, quelle est l'art oratoire qui nous va le mieux, quel est le style oratoire qui nous correspond le plus.
Et au fond, c'est quoi l'éloquence, Dimitri ?
L'éloquence, alors le dictionnaire dirait que c'est bien parler. Et d'ailleurs, ça vient du latin eloquens, qui veut dire bien parler. Mais quand on dit bien parler, ça veut dire quoi ? Est-ce que un paysan parle mal ? Il pourrait très bien parler de la terre, il pourrait très bien parler de l'humus. Un énarque pourrait bien parler de la terre et de l'humus, moins. Donc c'est aussi une question de la personne qui parle. En fait, au final, moi, l'éloquence m'intéresse assez peu en tant que tel. Le mot lui-même, c'est pas un mot que moi j'utilise. J'utilise plutôt les termes d'impact, d'inspiration et de mouvement. L'idée pour moi, c'est que la parole, quoi qu'il en soit, quelle que soit la personne qui parle, l'objectif n'est pas d'être bien vu. L'objectif n'est pas qu'on se dise « Oh, mais quelle belle parole ! Qu'est-ce que cette personne parle bien ?» Non, l'objectif est que la personne en face soit transformée et qu'elle ait comme une évidence. D'ailleurs, on pourrait dire l'éloquence, c'est l'évidence. C'est ce moment où la personne en face se dit oh, « Mais oui, évidemment, évidemment, et j'ai envie de suivre cette personne. » Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est la transformation qu'on peut provoquer et non pas les jolis mots qu'on va utiliser. Après, quand on a à la fois cette capacité à faire bouger et en même temps d'utiliser les bons mots, eh bien là, on est dans l'art, on est dans la beauté.
Et quand on est dans l'art, Dimitri, on le fait pour celui qui écoute. C'est aussi ça, finalement, l'éloquence. C'est on le fait pas pour soi, finalement, mais on est soucieux de celui qui écoute, Laetitia.
C'est ce qui a fait que je suis passée de bavarde à éloquente. C'est-à-dire qu'avant, je parlais parce que j'aimais m'entendre parler et c'était profondément désagréable pour mon entourage et pour mes proches. Ma mère peut témoigner, hein, faudra l'inviter la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je parle avec le souci d'être comprise, de faire passer quelque chose. En tant qu'humoriste, je me comprends. Mais tout mon souci, c'est de me dire comment est-ce que je peux faire pour me faire comprendre de personnes que je ne connais pas. Parfois, ils viennent de différents lieux et n'ont même pas les dénominateurs communs auxquels on a l'habitude de faire appel. Par exemple, la ville, par exemple, l'actualité locale. Parfois, ils n'ont même pas ce dénominateur commun-là. Et donc, tout mon souci, c'est de me dire comment faire pour que tout le monde me comprenne et que tout le monde puisse rire, même s'ils n'ont pas les mêmes origines, les mêmes références à la vie.
Alors, on est sur BFM Business, on est dans le podcast des indépendants, donc forcément, on se dit, c'est pas une émission sur l'éloquence au sens large, mais si on parle de ça un peu au sens large en ce début d'épisode, c'est parce que oui, c'est utile pour le business.
Oui, évidemment que c'est utile pour le business. Il faut bien comprendre qu'un solopreneur, son premier outil business, c'est sa parole. C'est sa parole qui va permettre de convaincre ses interlocuteurs, ses prospects. Et d'ailleurs, par exemple, c'est intéressant puisque là, on évoque l'écoute. Si on prend le milieu des sales, les vendeurs, dans le moment où on doit chercher à convertir quelqu'un et le convaincre que c'est son business qu'il faut privilégier, quelle est la compétence qui fait la différence entre des bons vendeurs et des excellents vendeurs? C'est même pas en soi la parole, c'est l'écoute. 22% des écarts entre les commerciaux, c'est l'écoute. Pas le pitch, pas le pricing, pas la connaissance du produit, c'est l'écoute. Et donc, on voit que écouter, c'est justement laisser à l'autre l'opportunité d'exister parce que la parole, c'est une danse. Et donc, on le retrouve dans le business. Savoir parler, c'est certes savoir convaincre, mais il faut aussi savoir écouter. C'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent qu'il faut remplacer quelquefois la volonté de convaincre par la volonté de comprendre. En comprenant mieux, on arrive à mieux se relier par la parole.
Écouter, ce qui permet aussi derrière de mieux reformuler, de trouver les mots justes qui résonnent et qui vibrent chez l'autre. Et l'un des moyens pour ça aussi, c'est la lecture. Alors moi, je le dis souvent, plus vous lisez, mieux vous vous exprimez. Et je l'ai expérimenté. Mohamed, toi, tu permets de lire plus efficacement, plus rapidement?
Effectivement, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et j'ai écrit plusieurs ouvrages sur les méthodes d'apprentissage et comment lire efficacement et comment lire plus rapidement. Et effectivement, moi qui suis dyslexique, j'ai détesté lire. Avant que je découvre la lecture rapide, la dernière fois que j'avais lu un livre, c'était pour le bac de français. J'avais fait un déni de lecture. Mmh. Et lorsque j'ai découvert ces outils d'efficacité et de lecture, je me suis mis à lire régulièrement. Et c'est le fait de lire régulièrement qui m'a permis d'avoir plus de vocabulaire et grâce au vocabulaire, j'ai pu mieux m'exprimer.
Et là, on est tous d'accord sur ce plateau. La lecture, bah, c'est le premier pas vers l'éloquence finalement. Elliot ?
Je suis assez mitigé. Évidemment que la lecture, la littérature permet de mieux choisir ses mots et que c'est extrêmement important d'être précis dans son vocabulaire, de nommer les choses précisément. Par exemple, dans la prise de parole, on connaît beaucoup de gens qui parlent d'avoir une communication à impact. Le mot impact ne veut rien dire. Est-ce qu'on parle de réussir à convertir?
Surtout quand on le lit partout.
Ah oui, mais il y en a marre. Mais, et justement, c'est ce qu'on
appelle... C'est comme oser, ça
exactement.
Commence à faire beaucoup.
C'est des mots qui sont des mots valises. Ouais. Et ces mots valises, justement, ils nous empêchent d'être précis. C'est comme si demain, quelqu'un venait vous dire, il faut une France de la justice. Ouais. La justice pour qui? La justice pourquoi. Donc, il y a la littérature, certes, mais il y a aussi tout simplement les fragments de vie. Plus vous vivez, bah, plus vous allez avoir des choses à dire. Il y a le degré de conscience. Et à la Fabrique des orateurs, nous, ce qu'on défend, c'est l'idée que pour bien prendre la parole, il faut d'abord avoir une conscience. Conscience de soi, de sa spécificité, de sa singularité. On parle de la signature oratoire pour ensuite être en confiance et en influence vis-à-vis des autres.
Ouais, mais en confiance, pour être en confiance, pardon, mais plus moi je lis de livres, plus je suis aussi en confiance.
Le fait de lire des livres, on peut lire des livres sur des histoires, des personnes inspirantes. Moi, lorsque j'ai lu l'histoire de Nelson Mandela, j'ai appris énormément de choses et j'ai pu transposer ça sur des épreuves de ma vie. Et effectivement, à l'ère de l'IA, où on peut tout avoir super rapidement, ce qui nous différencie, c'est la capacité à réfléchir, à prendre des décisions rapidement. Et ça, ça passe par nos expériences. Et donc, on peut avoir des expériences de vie. Mais quand on n'a pas d'expérience de vie, on a des expériences par quoi? Par soit ce qu'on a pu écouter d'autres personnes ou par ce qu'on a pu lire. Et effectivement, le fait de lire, ça nous permet d'avoir de l'expérience. Et moi, dans mon cas de figure, le fait d'avoir lu énormément, ça m'a appris à reprendre confiance en moi. Et le fait d'avoir confiance en moi, ça m'a aidé à prendre la parole avec d'autres méthodes comme la carte mentale dont on parlera plus tard. Mais effectivement, ça m'a beaucoup aidé à trouver les bons mots, les mots justes lorsque je prends la parole.
Et c'est pour ça que je dis que c'est une décision et que c'est pas un don parce qu'on peut mettre en place des actions. Et c'est la preuve qu'il faut travailler dur, et c'est ce que tu dis, Laetitia, pour être reconnue pour son éloquence.
En tout cas, il faut persévérer et c'est un travail effectivement à prendre. Souvent, on est le produit de notre environnement. On a le vocabulaire de nos parents. On a une relation avec notre parole qui vient de notre éducation, de notre culture. Moi, j'ai des femmes qui viennent vers moi en disant que la prise de parole pour les femmes était tellement codifiée au sein de leur famille, la prise de parole était tellement hiérarchisée que la spontanéité ne fait pas partie de leur quotidien. Mmh. Et donc, elles reprennent le pouvoir de leur voix pour enfin oser prendre leur place. Et donc, c'est un rôle actif, c'est un travail actif. Je ne dirais pas forcément de longue haleine, ça dépend quel est votre objectif, mais ce n'est pas une fatalité. Le niveau d'éloquence que vous avez aujourd'hui, bien sûr que ça peut se travailler. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, j'en suis la preuve et je pense que nous le sommes tous et toutes autour de ce plateau.
Parce que tu as beaucoup bossé, Laetitia.
Ah oui, moi, ça fait maintenant 9 ans que je travaille ma prise de parole en public. Avant, mon père me payait pour arrêter de parler. Maintenant, je suis payée pour parler. Le chemin est fait quand même. Oui, merci beaucoup.
Et comment ça se matérialise, ce travail, en fait? C'est quoi? C'est plus de lecture? C'est apprendre des textes?
Je pense qu'à chacun son parcours. Et tout chemin mène à Rome, je le crois. Beaucoup de chemins sont souvent populaires, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. Moi, effectivement, j'ai commencé par la lecture. Mon père n'en pouvait plus de m'acheter des livres et ça m'a permis d'avoir de l'imagination. Et donc, j'avais énormément de choses à dire, que je me suis rendu compte qu'entre aimer parler et savoir parler, il y avait tout un monde. J'ai commencé à suivre des cours de prise de parole en public, mais effectivement, on m'a d'abord appris à écouter. Ma mère m'a toujours dit, tu as deux oreilles, une bouche. Donc, j'ai appris à écouter. Plus j'écoutais, plus mes prises de parole étaient pertinentes, avaient une plus-value, un apport. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait m'écouter aussi longtemps que je le souhaitais, mais il fallait que je parle dans un but. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une sensibilité. Je suis devenue humoriste parce que je devenais drôle, mais sans le vouloir. J'avais apparemment des phrasés qui faisaient que même ma psy pouvait en rire. Donc, je me suis dit, autant rentabiliser tout ça. Et à force de monter sur scène, c'est là où j'ai trouvé mon identité, ma patte oratoire qui est forte, qui est là, qui est présente et qui me fait vivre aujourd'hui.
Tu parles de cours de prise de parole. En préparant cette émission, j'ai eu pas mal, on m'a dit, voilà, il y a beaucoup de coachs en prise de parole qui en fait passent à côté de l'essentiel. Ont un regard presque trop technique et pas suffisamment intime avec ce qu'est la prise de parole.
Tout commence au départ à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on parle de ça. Un orateur, c'est d'abord, ça part de l'intérieur. Une voix, elle naît de l'intérieur. Donc, on est le fruit de notre culture. Laetitia parlait de ça à l'instant. Et donc, cette culture, elle peut être de la lecture, des relations et tout ça. Mais c'est aussi, ça peut être, j'écoute des émissions. Moi, j'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais petit. Et puis, après, les gens écoutent des YouTube, ils regardent des conférences. Tous les moyens qui sont là pour apprendre à parler et à se transformer va nous changer, nous. Mais les premières barrières, de toute façon, qu'il faut casser quand on travaille avec quelqu'un qui veut prendre la parole, c'est pas des barrières techniques. C'est pas il faut bien articuler, il faut bien faire ci, faire ça. C'est des barrières intérieures. Et la problématique, elle est souvent dans, justement, moi, je crois qu'on peut devenir éloquent avec très, très peu de vocabulaire. La preuve, on peut même devenir président de la plus grande puissance mondiale avec 200 mots. Donc, et pourtant, il est éloquent, Trump. Il est éloquent pourquoi ? Parce qu'il vient venir toucher une partie majeure de la population américaine. Donc, il va utiliser les bons arguments, les bonnes choses qui vont venir toucher ces personnes-là. Et même s'il peut y avoir du faux, même s'il peut y avoir... On s'en fiche. Il utilise sa parole pour pouvoir transformer les gens qui sont en face.
Selon moi, on est surtout face à un politique qui dit à beaucoup d'Américains ce qu'ils veulent entendre et qui fait des promesses, qui fait qu'il est élu et probablement pas parce que c'est un orateur. Mohamed, je voulais revenir sur ce que tu as vécu. Tu as eu beaucoup de difficultés à monter sur scène. Aujourd'hui, tu fais des TEDx. En fait, c'est quoi la méthode ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ont ce souci de gagner en confiance sur le fait d'incarner leurs paroles.
Je suis parti de impossible à parler devant deux personnes. Donc pour moi, c'était impossible de parler devant deux personnes à l'Olympia. J'ai fait l'Olympia il y a un an devant 2000 personnes. J'ai rempli la salle tout seul en auto-production. Et les étapes, c'est déjà la méthode des petits pas. Donc, une étape après l'autre, mais c'est surtout la carte mentale. J'ai utilisé une méthode de prise des notes qui me permet de structurer mes idées. Lorsque je prenais la parole, je savais pas ce que je voulais dire. Mon cerveau, ça partait dans tous les sens. Comme dans mon cerveau, ça partait dans tous les sens, bah forcément, dans mes propos, ça partait également dans tous les sens. Lorsque j'ai appris à structurer mes idées, lorsque j'ai appris à savoir exactement ce que je voulais dire et à quel moment je voulais le dire, c'était beaucoup plus simple pour moi de prendre la parole. Donc, j'ai commencé par ça.
Et c'est la carte mentale, du coup?
J'ai utilisé la carte mentale. C'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images et qui est en adéquation avec le fonctionnement naturel du cerveau parce que notre cerveau fonctionne en arborescence. Nos idées fonctionnent en arborescence. Donc, quand je prends des notes, je ne vais jamais prendre de notes linéaires. Je vais prendre que des mots-clés sous forme d'arborescence. Et donc, moi, ça me permet, lorsque je prends la parole, si je me perds, moi, j'ai des branches. Je suis sur une branche. Dès que je perds un mot, je peux sauter comme un serpent qui passe d'une branche à une autre. Donc, j'ai toujours un endroit où je peux me rattraper dans mon texte. Et donc, je suis moins stressé. Et lorsque j'ai compris que il y avait que moi qui savais ce que j'allais dire et que les personnes qui m'écoutent ne savent pas ce que je vais raconter. Donc, si je me trompe ou je me trompe pas, il y a que moi qui sais si je me suis trompé. Donc, quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis mis à pratiquer doucement devant 2, 3, 5. Au début, j'ai appris mes textes grâce à la carte mentale. Ensuite, au fur et à mesure, je me suis dit, maintenant, Mohamed, tu sais construire une phrase. T'as un mot-clé, t'as une idée. Bah, tu vas mettre sujet, verbe, complément et tu vas y aller doucement. Je me rappelle, je pourrais parler des heures, mais la première fois qu'on m'a appelé pour me dire, Mohamed, tu vas faire un TEDx. J'étais encore salarié à l'époque. J'étais au téléphone, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle m'a dit, c'est bon, on t'a choisi, on a vu ce que tu fais, on adore ton travail, on voudrait que tu viennes nous parler de ça, de la lecture et autres, devant tes collègues. Je dis, mais vous êtes sûr que vous m'avez choisi, moi? Elle dit, oui, j'ai travaillé comme un fou pendant des mois. C'était, j'avais 3 mois, j'avais appris mon texte à fond.
Et la question, c'est de bosser, du coup.
Et
d'avoir
bossé.
Des méthodes. Et d'avoir de la confiance. Cette image mentale et donc cette arborescence qui te permet de te rattraper à des mots, c'est pareil. Tu peux arriver sur scène avec une certaine sérénité parce qu'en fait, t'as mis en place une méthode qui fait que t'es assuré de pas décrocher. C'est ce qu'on apprend, j'imagine, avec toi aussi, Elliot, des méthodes comme ça.
Évidemment, il faut pas écouter celles et ceux qui vous disent vous allez devenir charismatique en 12 heures et 3 minutes. Il y a pas de potion magique, c'est pas Astérix. La prise de parole, c'est très méthodique. Et c'est pour ça qu'à la Fabrique des Orateurs, on défend la rhétorique. La rhétorique, c'est une discipline qui explique qu'est-ce que c'est que bien parler. Et bien parler, c'est 3 choses. Premièrement, bien parler, c'est du point de vue de la forme. J'ai une certaine éloquence, je capte l'attention. Ensuite, c'est le bien du point de vue du fond. Ce que je dis est pertinent, cohérent, ce que je raconte est construit et bénéfique, utile pour celles et ceux qui m'écoutent. Et c'est le bien au sens de l'éthique. Je raconte pas n'importe quoi à n'importe qui. Non, j'ai le souci de l'autre, j'ai le souci d'une parole juste et exigeante.
Et le respect des mots, du coup, aussi.
Et le respect des mots, le respect de l'autre, et tout simplement aussi de ne pas faire n'importe quoi. On voit aujourd'hui beaucoup d'esbroufs. Combien de scammers dans le milieu du business en ligne? Probablement que là, ça parle aux solopreneurs qui se sont peut-être fait arnaquer parce que des gens arrivaient par la magie de la parole à les envoûter. Et donc, c'est très important aussi de comprendre que quand on prend la parole, on peut créer de l'espoir. L'honorer, c'est créer de la confiance. Et donc, il faut aussi, on a une responsabilité éthique quand on a un orateur, quand on a une bonne parole, qui est de dire « tu peux compter sur moi car mes mots comptent ».
C'était beau. C'était très beau.
C'est un orateur parce qu'il finit chaque prise de parole par une citation ou par une phrase.
Qui est une punchline.
Qui est une punchline. Il fait exprès, il les a tout préparés. Et un orateur, c'est une personne qui prépare. Souvent, on a l'impression qu'un orateur, c'est une personne qui a l'habitude de parler. C'est sûr que toutes ces punchlines, il les a préparées. Ou parce que plus tu vas préparer, plus tu vas t'entraîner, plus ça va être facile pour toi. Et je donnais l'exemple de tout à l'heure. J'ai passé 3 mois à préparer mon premier TEDx. J'ai passé 1 semaine à préparer mon 2e, j'ai passé 1 journée à préparer mon 3e. Et l'Olympia, je l'ai préparé. Effectivement, j'ai fait une tournée avant de faire l'Olympia, mais ça m'a pris beaucoup moins. J'étais moins stressé lorsque j'ai fait l'Olympia que lorsque j'ai fait mon premier TEDx. Alors qu'il y avait beaucoup plus d'enjeux. Et la seule différence entre les deux, c'est uniquement l'entraînement et le fait que le cerveau a compris que c'était accessible.
Elliot.
Sur la préparation, on finit tellement par être préparé qu'on n'a plus besoin de se préparer. C'est-à-dire que vous avez tellement écrit de punchline que vous savez comment est-ce que vous pouvez construire sur le moment une phrase qui sera mémorable. On appelle ça la sprezzatura. La sprezzatura, c'est quoi? C'est j'ai tellement été habitué que ça devient une seconde peau. C'est un peu comme si on disait Kylian Mbappé, il est né avec un ballon dans les pieds. En fait, non. Il est allé à l'entraînement des semaines, des mois, des années. Plus on pratique, plus on sait faire, plus on fait, plus on a de l'effet.
Ça, c'est super intéressant. C'est de rappeler que l'éloquence, c'est aussi d'écrire. Toi, Laetitia, j'imagine que tu écris beaucoup.
Alors, je ne suis pas de ce côté-là du plateau. J'ai fait l'inverse. Moi, j'ai pratiqué et après, j'ai décidé de théoriser mon expérience de vie. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi. Avant d'apprendre à exprimer quelque chose, j'ai essayé d'apprendre à m'exprimer. Ce fameux M apostrophe, de me questionner sur qui j'étais, ce que je voulais dire. Et après un certain nombre de prises de parole spontanées, j'ai pu voir qu'il y avait des messages qui étaient de plus en plus importants pour moi. Le message de l'identité, le message de la place de la femme, le message de l'audace, de la confiance en soi. Et c'est ainsi que j'ai réussi à trouver un petit peu mon petit monde et mon petit milieu.
Et tu dis une phrase que j'aime beaucoup, les mots, c'est la garde-robe de la pensée.
Oui, le vocabulaire, c'est la garde-robe de nos pensées, effectivement. Pour moi, cette image, elle est belle, déjà parce que j'aime les vêtements. Je ne sais pas si ça se voit, mais celles et ceux qui écoutent, je vous invite à aller honorer mon costume. Merci beaucoup. Mais je disais ça pour encourager les femmes que j'accompagne à venir augmenter, travailler, enrichir leur garde-robe lexicale. Vous savez, le vocabulaire, c'est comme une garde-robe. On a tous chez soi, qui est plus ou moins fournie. La mienne est complètement pleine à craquer. Et c'est un plaisir chaque jour d'avoir le choix de choisir ma tenue selon mon envie, mon besoin, là où je vais aller. Et ce n'est pas du snobisme, c'est juste la manière dont j'ai envie de me présenter à un moment clé. Et je crois que le vocabulaire, c'est la même chose. On doit avoir du choix, avoir le plaisir de savoir habiller notre pensée qui ne change pas. Mais c'est toujours bien de pouvoir savoir si aujourd'hui ça sera un smoking, une robe de gala ou plutôt un jogging rose bonbon. Mais lorsque l'on a le plaisir de choisir, ça nous donne aussi une certaine confiance. On sait que l'on a la tenue que l'on souhaitait et ça évite la frustration. Ça permet aussi d'avoir de la précision et de l'exactitude dans nos propos.
Et ça me donne envie de faire un pont avec le business puisque tu parles de garde-robe. Quand on se présente à un client, quand on a envie de faire bonne impression, quand on va négocier, eh ben on s'habille en fonction. Et si on a effectivement le vocabulaire aussi en face, ben c'est exactement la même chose, on est beaucoup plus armé.
Mais on est beaucoup plus à l'aise aussi, on se sent bien. Mmh. Ça travaille énormément. Moi, quand je suis dans ce smoking room, je suis, pour moi, vraiment...
sublime.
je voulais pas le dire, mais merci beaucoup. Et ça change tout. Et je sais que certains cherchent à avoir un vocabulaire riche en confondant avec le fait d'avoir un langage soutenu. Enrichir son vocabulaire ne veut pas dire qu'on doit commencer à avoir un langage soutenu. C'est juste aller chercher les synonymes, les antonymes, différentes manières de dire la même chose pour s'amuser aussi, parce que les mots, eh bien, l'éloquence, c'est aussi un art.
Et on l'entend vraiment là depuis le début de l'émission. Et alors, je ne sais pas si c'est moi, mais c'est hyper agréable à entendre, en fait. C'est hyper agréable d'être avec quatre orateurs éloquents où les messages sont clairs, fluides. Enfin, ça fait du bien. Je l'ai dit, pour moi, les mots ont un vrai pouvoir, pour vous aussi. Et je pense que c'est même parfois un peu trop mis de côté, parce que c'est quand même des fois très compliqué, en fait, d'y accéder. C'est quoi les freins mentaux quand on parle, justement, de progresser en termes d'éloquence, Dimitri ?
Le premier, c'est le regard que j'ai vis-à-vis de moi-même. Et donc, ici, je pense que la plupart d'entre nous, là, enfin, je crois même qu'il n'y a que des personnes qui ont confiance en elles. Déjà, cette étape d'avoir confiance en soi fait que je peux me présenter à l'autre et je peux assumer ma voix, ma parole, quelles que soient mes problématiques. Et d'ailleurs, l'erreur crée de la connexion. Si je suis trop parfait, je vais énerver aussi. Et l'impression n'est pas ce qui va vraiment créer l'espace où je vais toucher la personne. Si je suis juste impressionnant, je suis au-dessus. Et si je suis au-dessus, il y a quelque chose qui peut aussi énerver. Il est au-dessus, elle est au-dessus, moi je serai jamais à cet endroit-là. Ça crée une distance entre celui qui parle et celui qui écoute. Donc l'important, c'est déjà d'avoir une confiance, certes, mais aussi de travailler cette conscience de, en fait, pour qui je parle. Est-ce que c'est pour moi que je parle? Est-ce que c'est pour être le plus beau, avoir la plus belle parole ou... Non, c'est pour transmettre quelque chose. Et l'art de la parole, l'éloquence ou l'art oratoire, c'est un art de la scène, c'est de l'art, parce qu'en fait, la voix, la parole, c'est que du semblant. On est en train de fabriquer des images, là, avec juste du son. C'est ça qu'on est en train de faire. Et donc cet art, il faut prendre conscience que c'est un art qui n'est pas simplement pour soi, il est pour se donner. Et c'est ce pont, on parlait tout à l'heure, tu parlais de pont, c'est une analogie. La voix, la parole, c'est un pont qui se lie entre deux personnes. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant, c'est cette concentration, sortir de soi. Pour pouvoir sortir de soi, faut-il encore avoir un endroit où je suis bien avec moi. Quand je suis pas bien avec moi, je suis face à un miroir qui en fait me fait du mal. Et quand je parle à quelqu'un, je ne fais que me regarder moi-même en train de me dire je suis pas assez comme ça, je suis trop comme ci. Et tout ce regard que j'ai face à moi-même, en fait c'est tout ce que je ne donne pas à l'autre. Alors que quand je suis bien chez moi,
presque dans les mots, dans la posture, dans les émotions, c'est ce qu'on renvoie finalement. Donc il y a quand même effectivement un gros travail de confiance en soi. Et tu parlais d'image mentale, ça me fait penser à l'humour. Est-ce que, du coup, l'humour est un vrai atout pour être un bon orateur ?
Oui, je pense que, de toute façon, l'humour, quels que soient les outils qu'on va utiliser, l'important, c'est le message, certes. Dans le triangle de la persuasion d'Aristote, il y a le logo, c'est la logique, le message, certes. C'est ça qu'on vise, c'est transmettre un message. Mais pour que ce message soit transmis, il faut déjà, qu'on soit écouté. Pour être écouté, il faut que les gens en face de nous se disent on peut nous écouter, qu'on a cette crédibilité, que cette personne, elle a le droit de parler sur ce sujet. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éthos. Mais au final, ce qui permet à ce que ça s'ancre, c'est le pathos, l'émotion. Donc l'humour fait rire des gens, évidemment. Parce qu'il faut utiliser l'humour, il faut utiliser la dérision, il faut utiliser l'émotion, il faut utiliser nous ce qu'on est, il faut transmettre. Là, par exemple, je transmets ma passion.
Ah bah ça, on l'entend.
On l'entend et on le voit.
Il y a de l'énergie, c'est super agréable. Laetitia, quand on parle humour, toi, du coup, tu t'es rendu compte que c'était un gros atout.
C'était d'abord un complexe parce que je faisais rire sans le vouloir et je me voyais. Oui, c'est. On en parlera une autre fois, mais c'est quelque chose de monter sur scène et de raconter ces péripéties, de voir des personnes mourir de rire alors que c'était pas du tout prévu. Et donc manifestement, j'avais une clé que je ne maîtrisais pas et j'ai essayé de la cacher, de l'enfouir jusqu'au moment.
Ah mon Dieu.
C'était très frustrant jusqu'au moment où on m'a expliqué qu'au contraire, c'était là un réel atout, une arme.
Faut s'assumer, quoi.
L'humour fédère, l'humour faisait qu'on se souvenait de moi, l'humour faisait que je marquais les esprits, que j'arrivais à capter l'attention. Et j'ai commencé à essayer justement à la manier. Et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir être drôle.
Ça se sent. Mohamed, toi, tu mets de l'humour ou pas dans tes...
Oui, toujours, je mets de l'émotion. C'est important pour retenir... Il faut mettre de l'émotion. Le panel d'émotions est assez large, parce qu'on parle souvent du rire, de l'humour, mais il y a aussi la peur, mais il y a plein d'autres émotions. Et dans le cercle des émotions, il y en a énormément. Et intégrer des émotions dans nos discours est quelque chose de super important. Et j'intègre aussi le VACOG, le visuel, l'auditif et du kinesthésique. Quand je mets du visuel dans mon discours, quand je parle, quelqu'un m'entend. Mais lorsque je mets des images, quand je vais raconter des histoires, la personne va visualiser l'information.
Ouais, des exemples, des projections, des situations.
Exactement.
Des récits.
Lorsqu'on apprend dans l'apprentissage, il y a des personnes qui sont plus auditives, kinesthésiques, d'autres qui sont plus visuelles. Et donc, j'intègre ça également dans les discours.
Ça peut être intéressant d'expliquer, de prendre conscience qu'on a deux typologies de personnes face à soi et qu'en fonction de ça, c'est quoi, on adapte son discours.
Barack Obama, sur laquelle il était très très fort, c'est que lorsqu'il parle, il raconte des histoires, beaucoup d'histoires, et il parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'il va parler autant à quelqu'un qui est auditif, autant à quelqu'un qui est visuel, autant à quelqu'un qui est kinesthésique. Tous les gens qui sont là l'écoutent et ils se sentent tous concernés. Si je parle qu'à une typologie de personnes, d'autres personnes ne se sentent plus concernées. Et dans l'apprentissage, c'est la même chose.
Elliot,
il y a la sensorialité. C'est vrai, si je voulais faire un peu le crâneur en rhétorique, on parle de synesthésie, le fait de mélanger les sens pour créer une expérience sensorielle. Parce qu'à la fin d'une prise de parole, ce dont on se souvient, c'est l'émotion. Depuis tout à l'heure, on parle d'émotion.
Mais tu as
fait le crâneur. Hey, je fais le crâneur. C'est une prétérition. Toi, je fais deux fois le crâneur. Et je vais faire trois fois le crâneur en donnant la racine étymologique de l'émotion qui vient de movere. Movere, c'est mettre en mouvement. Et ce qui nous met en mouvement, c'est l'émotion. Si je demande là aux gens qui nous regardent, les solopreneurs, les entrepreneurs, quelle est la prise de parole qui vous a le plus marqué? Probablement que vous serez incapable de me dire un traître mot et la phrase exacte. En revanche, vous serez en capacité de me dire qu'est-ce que vous avez ressenti, comment votre cœur a battu un petit peu plus, qu'est-ce que ça vous a laissé comme empreinte chez vous. Et cette exemple-là, il démontre à quel point, à la fin, ce dont on se souvient, c'est le souvenir qui nous est laissé. Les émotions mettent en mouvement. Pour autant, il faut quand même faire l'effort de clarté. La prise de parole, c'est pas qu'un amas de mots, une montagne de lettres. C'est aussi une structure, un horizon qui est donné. Et en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, quand on prend la parole devant un COMEX, devant un CODIR, il faut prendre par la main les gens qui sont là et leur expliquer quelle est la trajectoire. En tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, on a une responsabilité de faire en sorte que le message soit clair. Sinon, on laisse les autres dans l'ombre.
Ce que j'entends là, c'est qu'on est quand même vraiment sur un sujet de confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi, on ose aussi s'exprimer. On ose parler, prendre la parole et se faire confiance. Laetitia?
Oui, la plupart des femmes que j'accompagne ont déjà le travail dont elles ont toujours rêvé. Elles ont le poste dont elles ont toujours rêvé. Mais elles n'ont pas encore, on va dire, l'éloquence et elles ne se donnent pas le droit maintenant de parler en tant que telles. Et souvent, elles viennent vers moi pour qu'il y ait une sorte de passation de confiance. Je dis toujours, ma mère a souvent eu à dire que j'avais énormément de confiance en moi, peut-être en excès. Aujourd'hui, je sais que c'est pour le donner, le distribuer à celles que j'accompagne. Et je crois sincèrement que avant la confiance en soi, qui vient en pratiquant. C'est un processus d'avoir confiance en soi. Et ça vient avec nos faits d'armes. Avant d'avoir confiance, il faut être audacieux. Ça veut dire avoir le courage d'y aller sans avoir toujours la certitude à 100 000% que ça aboutira à ce que l'on souhaite. Et j'accompagne à ce moment-là. Au moment où on se dit, mais et si je rate, je dis, bon, quelles sont tes pires peurs? De quoi as-tu peur? Souvent, les peurs sont infondées. Donc, en démystifiant tout cela, en essayant de rationaliser la peur, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'échec. Et même lorsque l'échec arrive, il y a toujours une manière d'en faire un joli discours.
Quand je vous entends tous les quatre, franchement, je me dis que les mots font aussi rayonner. Et dans le business, c'est super important. Quelqu'un qui est à l'aise avec les mots et qui est à l'aise face à un client, il rayonne et donc ça se ressent et donc il fait plus de business. Elliot ?
Oui, très clairement. Et d'ailleurs, on sait que un employé, généralement, il va refuser, un quart des employés refusent la promotion parce qu'ils ont peur de prendre la parole. Parler, c'est briller, mais il faut aussi chercher à éclairer les autres. Et nous, les clients qu'on accompagne à la Fabrique des Orateurs, généralement, il y a deux grands enjeux. Soit on cherche à s'affirmer dans la parole, prendre sa place, prendre des risques, prendre l'espace. Soit on cherche à s'affiner. Parce qu'il y a plein de gens qui sont à l'aise avec la parole. Ils n'ont pas peur de prendre la parole. En revanche, ils ont besoin de travailler les effets. Typiquement, je dois aller chercher du coup des investissements supplémentaires ou alors je veux tripler mon business. Comment est-ce que je fais? Et bien là, on va rentrer dans de la stratégie. Et c'est là où la rhétorique intervient. S'affiner, sculpter sa prise de parole, sculpter son discours, sculpter aussi la personnalité qu'on révèle.
Oui, la rhétorique, on n'en a pas parlé, mais c'est super important et ça n'a rien à voir avec l'éloquence.
Ah non, du tout.
C'est de savoir calibrer sa parole, adapter son discours, anticiper peut-être aussi les objections.
Tout à fait. La rhétorique, c'est une connaissance. L'éloquence, c'est une compétence. Par exemple, avec la rhétorique, on peut analyser les styles des gens qui sont ici. Là, on a une signature oratoire qui est facétieuse, quelqu'un de très drôle. Ici, on a
Laetitia.
Ouais, Laetitia, exactement. Ici, on a quelqu'un qui est militante. Il est passionné, donc
Dimitri.
Passionnant. Ici, on a un explicateur, un conférencier. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui est aussi pragmatique dans sa parole, qui distribue, un diplomate. Et donc là, on voit qu'on a des signatures oratoires différentes. Et c'est fascinant de voir qu'il y a mille et une nuances d'éloquence. Et ce qui permet d'analyser ça, c'est la rhétorique.
Et puis, il y a la voix, parce que c'est aussi une question d'intonation, plus grave, moins grave, et on sent qu'on joue avec les cordes vocales. Je trouve que c'est vraiment ça aussi l'éloquence, Dimitri.
La voix, c'est tout, en fait, au départ, hein, parce que chaque mot, c'est que du son. On a extrait les sons et on les a mis sur du papier, mais au départ, tout est que sonore. Même un mot, c'est une forme sonore. On peut d'ailleurs travailler une forme sonore différente. On peut dire une pomme, on peut dire une pomme. C'est pas la même pomme. Et donc, c'est aussi ça le pouvoir de l'éloquence, c'est bien parler, avoir quelque chose qui est joli, beau et c'est artistique. Donc avec la voix, il y a des paramètres que personne ne connaît. On est dans un désert complet vis-à-vis de la conscience de ce qu'est l'influence sonore. C'est-à-dire qu'on ne nous apprend pas du tout à comprendre notre voix et à la maîtriser.
Dimitri, tu as mis le mot, c'est le mot influence. Et je trouve que c'est aussi ça qu'on est en train de dire depuis le début de cet épisode, c'est que quand on maîtrise l'éloquence, quand on s'exprime, etc., et qu'on a du vocabulaire notamment, on a de l'influence. Et c'est l'un des objectifs aussi quand on parle business. Il nous reste une minute pour finir cet épisode, pour terminer cet épisode du podcast des indépendants sur le pouvoir de l'éloquence. Un dernier mot peut-être, Mohamed.
C'est le mot qui a commencé mon premier livre. La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Elle résonne en moi à chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose. Et je me dis, Mohamed, t'as rien à perdre, vas-y, essaye. Et donc, dans la prise de parole, il faut commencer tous les jours un peu à prendre la parole devant une, deux, trois. Et tous les jours, s'analyser et se dire, voilà, demain, je serai meilleur que la veille. Et aujourd'hui, on se compare à des personnes qui prennent la parole depuis 10 ans, 15 ans. Moi, je suis à mon niveau 1, lui, il est à son niveau 100. Et dans 10 ans, je serai à mon niveau 100, moi aussi. Par quoi ? Par l'action et la répétition.
Elliot.
Ouais. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Prenez la parole partout où vous pouvez. Vous qui nous écoutez, demain, en réunion, allez-y, essayez d'utiliser une figure de style. Et puis ensuite, quand vous allez devant un client, écoutez-le, reformulez-le, et puis ensuite, posez des questions. Et puis le jour où vous allez prendre la parole en public, utilisez une introduction un peu originale qui capte l'attention et conclue avec une émotion. Bref, utilisez la rhétorique, c'est ce qui est un outil premier dans le business.
Elliot, je voulais te poser une question, parce que tu as ouvert une académie, la Fabrique des Orateurs. Est-ce que tu as le sentiment que les gens, surtout les indépendants, se soucient de plus en plus de leur capacité à prendre la parole?
Mais oui, ils se soucient de plus en plus, les indépendants se soucient de plus en plus de la parole, parce que face à l'IA, qu'est-ce qui va faire la différence? Tout le monde demain va savoir prompter. Qui saura parler? Et donc, on voit là qu'on a une mutation de l'économie, mais qui est énorme. Combien d'indépendants ont peur que leur job disparaisse? Qu'est-ce qui va faire qu'on va voir leur expertise, qu'on va comprendre leur personnalité, qu'on va saisir leur légitimité? C'est leur parole, bon sang. La parole va être plus que jamais au XXIe siècle cruciale pour le business, mais aussi pour ses relations interpersonnelles. Demain, vous allez savoir envoyer des textos amoureux avec ChatGPT, mais est-ce que quand vous serez en face, vous arriverez à ne pas bégayer et dire les mots d'amour?
La parole, c'est l'arme face à l'IA.
C'est l'arme face à l'IA, mais on le voit d'ailleurs sur LinkedIn. La prise de parole, depuis 2 années, c'est la première compétence recherchée. La communication est d'ailleurs la première compétence regardée dans le recrutement. C'est simple, on fera la différence demain entre celles et ceux qui savent bien parler, qui savent se présenter, qui savent vendre, et celles et ceux qui cachent, masquent, s'empêchent de pouvoir faire valoir leur parole, leur voix et leur légitimité.
C'est intéressant parce que c'est la valeur humaine qui reprend toute sa place
et
toute son influence. Laetitia, un dernier mot.
Beaucoup de gens négligent l'importance de leur voix et constamment recherchent leur place. Parfois, la place ne se trouve pas, elle se fait. Moi, mes parents, qui étaient immigrés, ont eu toute leur vie ce guide de survie et m'ont toujours encouragé à raser les murs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de le dire, je suis le fruit de leur pire peur, mais aussi de leur plus grande fierté. Donc, à celles et ceux qui nous écoutent, ne vous questionnez plus sur votre plus-value. Laissez-nous vous entendre, vous écouter. Commencez par quelques mots, peut-être un échange, une réflexion. Et je vous assure que vous rendrez compte que vous aussi, vous avez de la plus-value à apporter.
Dimitri,
et au pire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vous laisse avec cette question. C'est allez-y et si vous réfléchissez vraiment au pire, qu'est-ce qui se passe, vous vous direz, bah, pas grand-chose. Alors, on y va. Quand est-ce qu'on y va?
Merci beaucoup à tous les quatre pour avoir participé à cet épisode sur le pouvoir de l'éloquence. Franchement, c'était un plaisir de vous avoir. Cet épisode m'a fait du bien personnellement et j'espère qu'il sera inspirant pour tous ceux qui l'auront écouté, même si ce mot est beaucoup trop utilisé. Je vous rappelle qu'on se retrouve un jeudi sur deux avec un nouvel épisode du podcast des indépendants sur BFM Business. Évidemment, à bientôt.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.